Encore on fait le générique en acapella.
Allez. On se remet comme on dit.
On a...
Oh bah. Tu sais
Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le troisième lieu avec Rendez-nous Bazin, votre émission cinématographique de la semaine. Aujourd'hui on se retrouve avec Oran,
coucou,
Claire, Hugo, notre cher Lucas,
bonsoir,
et pour finir Victor,
bonjour bonjour.
Un gros big up aussi à Coco qui nous assure la technique. Aujourd'hui, vous l'aurez reconnu grâce à notre petit jingle de générique, nous allons parler super-héros. Alors à tous ceux qui ont reconnu plutôt Spider-Cochon que Spider-Man, je vous demanderai de sortir. Nous allons nous retrouver donc pour Marvel et DC en compagnie de Clément. Clément, c'est à toi, je t'en prie.
Merci pour cette petite blague d'abord Théo, c'était très... voilà. Non, je rigole. Du coup, je vais revenir sur les sorties Marvel et DC comme tu l'as évoqué en 2017, mais aussi surtout pour faire un bref rappel de ce qu'est en fait un peu le genre super-héros. Bon, je vais pas donner des critères précis, mais rappeler à peu près où ça a commencé, comment ça s'est développé, ce qui a été, quels ont été les films majeurs et tout ça, voilà. Donc... le film de super-héros, en fait, il remonte, ça remonte à... C'est une vieille tradition, mine de rien, quand même, à Hollywood. Ça date de... Le premier vrai film de super-héros est sorti en 1978. Je vous laisse... Enfin, j'imagine que vous savez que c'était le premier Superman de Richard Donner. J'imagine que tout le monde l'a vu ici.
Évidemment.
Évidemment.
Voilà, ouais. Non, personne ne l'a vu ?
Non.
Ah, d'accord, ok. Bon, non, c'est dommage. Bah, au début, c'était du coup le premier film de super-héros, voilà, ça commence par Superman, premier super-héros aussi qui a été créé voilà, en 38, on va pas refaire l'histoire. Première adaptation de comics qui a été ensuite suivie par toute une chier de films, si je peux me permettre l'expression, notamment Batman de Tim Burton, celui-là, bah, voilà, vous aurez reconnu la musique du générique. Puis vient les Batman de Schumacher pardon, dans les années 90, avant une petite chute. Et après, ce qui a vraiment permis la renaissance, ou même plutôt une vraie naissance du genre, c'est surtout X-Men en 2000, qui a permis d'adapter véritablement les films de super-héros en adaptant des vraies histoires inspirées directement de comics, et pas juste un nom de personnage fait pour vendre en fait, un film, comme l'ont été les premiers Batman ou Superman. Et X-Men a été vraiment un film assez important dans l'histoire, on va revenir dessus notamment plus tard quand j'évoquerai le cas Logan. Notamment du fait que, au-delà d'adapter des histoires de comics, on pouvait traiter de certains sujets de la société grâce à ces personnages-là et par le détour des personnages de super-héros. Est-ce que j'ai besoin de rappeler que les X-Men traitent de l'homophobie, de la xénophobie, de la peur de l'étranger, tout ça, la différence entre les autres ? Voilà quoi. Après, il y a eu aussi une autre date qui est carrément essentielle, enfin, pour moi, je pense pour une grande partie du monde, ça a été 2002 avec l'apparition, même la sortie de Spider-Man de Sam Raimi. Immense succès qui a permis qui a fait exploser en fait la popularité des super-héros avant quand même une période un peu trouble où on a eu quelques films qui se chevauchaient voilà en pense bête comme ça on va dire il y a eu Daredevil, il y a eu les suites d'X-Men et Spider-Man, il y a eu des excellents Elektra et tout ça Voilà. Ensuite, on a quand même eu en 2005 Christopher Nolan qui nous sort Batman Begins, qui a permis aussi un renouveau dans le genre, dans le sens où on pouvait vraiment faire un cinéma d'auteur. J'ose le mot quand même, cinéma d'auteur, avec les films de super-héros. Aujourd'hui, ça fait un peu scandale de dire ça avec tout ce qui est sorti, mais bon, voilà, ça a vraiment pu exister. Et même 2008 avec The Dark Knight, film ô combien exceptionnel. Vous l'avez tous vu, j'imagine, The Dark Knight ici, oui. Quand même.
Ah là, il y a pas photo.
The Dark Knight, voilà.
C'est la base.
Tu l'as pas vu, Claire, The Dark Knight, c'est ça ?
Absolument pas.
Ah, d'accord, super, génial.
Oh mon dieu.
Le film a 10 ans cette année d'ailleurs. Petite parenthèse. Et aussi en 2008, on a eu un autre film qui a été un mal pour un bien, je dirais. C'était Iron Man, ou un bien pour un mal, sans doute. Il faut plutôt le voir comme ça, Iron Man, parce que c'était, à mon avis, une des dernières adaptations de super-héros, comme on l'entendait avec X-Men ou Spider-Man, et qui a permis d'amener toutes les horreurs qu'on peut avoir aujourd'hui, en fait, c'est-à-dire cette surconsommation de films de super-héros qu'on a depuis 10 ans, justement, avec Iron Man, et notamment avec l'ascension de Marvel Studios, qui après a été racheté par Disney en 2009. Donc ça, c'était à peu près pour la petite histoire. Après, voilà, vous savez, il y a eu toute une suite, enfin, il y a eu au moins 3 Iron Man, il y a eu Avengers, il y a eu tout cet univers partagé créé par Marvel, du coup, depuis 2008. DC a voulu lancer son propre univers avec Man of Steel, sorti en 2013. Et c'est un peu planté en 2016-2017, même avec Batman v Superman et Justice League, quoi qu'on en pense. Navré, les gars, si vous avez aimé les deux navets que sont ces films. Et donc voilà, ça c'était pour la petite contextualisation, ma foi. Et j'ai envie de revenir un peu sur... je vais revenir sur Marvel, du coup, en 2017. Alors Marvel Studio en 2017, ça a été 3 films. Ça a été les Gardiens de la Galaxie volume 2. Ça a été Spider-Man Homecoming et Thor Ragnarok, si je ne me trompe pas, c'était bien dans cet ordre-là. Et donc, 3 suites, en fait, déjà. Ça commence à faire beaucoup. Enfin, un deuxième reboot pour Spider-Man, ça aussi, ça faisait beaucoup. Et avec cette année-là, en fait, on peut se poser des questions, en fait, sur la... Comment dire, sur les limites de Marvel Studios, des limites qui étaient déjà annoncées depuis quelques années avec la sortie du premier Avengers, par rapport au manque d'enjeux en fait, que proposent les films, à cette idée de vendre juste des simples produits de consommation, bêtes et méchants, sans réelle idée d'adaptation ou même d'idée de film, simplement en fait. Je dis beaucoup en fait, oui. Il va falloir que je change ça. Et donc, on tombe sur 3 films cette année qui sortent, et donc 3 comédies surtout, ce qui est vachement dommage. Et je vais d'abord aborder le cas Gardiens de la Galaxie volume 2 de James Gunn, suite du coup d'un premier film plutôt bien acclamé, qui est sorti en 2014. Et pourquoi j'ai pas... bien apprécié le film, on en reviendra peut-être plus tard si vous aurez envie de débattre, mes chers camarades. Je suis plutôt réticent avec le film parce que il me pose problème. En fait, c'est un des rares films, enfin Marvel, qui sont sortis ces dernières années où il y a vraiment un manque d'enjeux constant, dans le sens où tout est délaissé au profit de la blague. C'est-à-dire que on laisse vraiment toute l'histoire, toute l'intrigue, tout le développement des personnages, enfin. Ou alors un développement presque catastrophique, voire même banal ou très dispensable, en fait, au profit d'une surenchère de blagues, plus ou moins drôles d'ailleurs, où on a l'impression que James Gunn cherche à nous faire constamment rire, en fait, à nous pousser à rire, et des fois c'est même grotesque. Je ne sais pas si vous regardez l'émission sur YouTube, les Honest Trailers de Screen Junkies, ils ont fait une vidéo justement des Gardiens de la Galaxie volume 2 en disant que voilà, c'était cool de retrouver tous les personnages, et en fait il y a un montage qui est plutôt sympa dedans où ils te montrent que tous les personnages à un moment sont en train de rire, et limite comme si les personnages nous pointaient du doigt en disant bah maintenant rigole, et le film en fait c'est constamment ça, c'est constamment des blagues sur blagues, qui fait qu'à la fin on arrive sur quelques petits enjeux qui peinent à nous convaincre en fait et à nous faire rentrer dans le film. C'est dommage parce qu'en plus ça arrive à la fin du film. Et j'ai trouvé ça vachement dommage. Après, le film, ce qu'il a pour lui, c'est que c'est un des rares films de super-héros de ces dernières années à développer une vraie image, en fait. Il y a des belles images dans Les Gardiens de la Galaxie volume 2, il y a vraiment des belles couleurs, il y a tout un travail là-dessus, et c'est quelque chose de... Bah, c'est bien, en fait, pour en adaptant des comics, à la base, c'est le matériau de base qui te permet de faire le plus de couleurs, sans doute. Enfin, je sais pas, t'as des dessins et tout ça, enfin ouais, bref. Voilà, donc c'était un petit manqué, je trouve, pour les Gardiens de la Galaxie volume 2. En plus, du coup, même au niveau de l'intrigue, l'histoire était assez dispensable, ne raconte pas grand-chose, se contente d'être un peu un vulgaire remake du premier, tout en s'inspirant grandement de l'Empire Contre-Attaque, en moins bien forcément, et même en utilisant une bande-son qui... enfin, avec une utilisation de la bande-son qui est vachement moins bien gérée que celle du premier, qui était pourtant assez géniale. Enfin, j'imagine que vous avez bien aimé aussi la bande-son du premier Gardien de la Galaxie.
Tout à fait.
Et, du coup, voilà, j'ai trouvé que c'était un peu un, j'ai trouvé que c'était un peu un raté, ce film-là. Mais voilà pour ça. Après, ensuite, vient Spider-Man Homecoming. Grosse déception, forcément, parce que Spider-Man... je sais pas, comme je le laissais évoquer tout à l'heure en parlant un peu, c'est un héros déjà qui, bon, je raconte un peu ma vie, qui m'est vachement cher, et qui est cher aussi à beaucoup de monde. Ça fait déjà son deuxième reboot, et là on tombe sur un film vraiment qui est inoffensif, qui ne raconte pas grand chose et qui devient même vraiment artificiel dans le sens le fait est que ce soit un film très dispensable qui n'adapte pas spécialement bien le personnage, qui ne développe aucun thème en fait sur le personnage. Je rappelle que les films de Sam Raimi, c'était vraiment toute la question du passage de l'adolescence à l'âge adulte. Tout à l'heure, Lucas faisait une blague en off en disant Spider-Man, c'est vachement phallique, mais en fait c'est presque ça en fait. C'est un garçon qui commence à découvrir son corps en fait, et qui commence à découvrir son corps qui se transforme à la puberté et tout ça, et ça passe par quelque chose qu'il sécrète et qui est blanc, voilà, hein. Non mais c'est vrai en plus, non mais dit comme ça c'est... ne rougis pas, Corentin. Mais c'est vrai, en plus, c'est ça en fait, Spider-Man, c'est vraiment ce passage-là, et c'est le début des responsabilités pour un homme, quoi. Et...
on se demande tous pourquoi tu adores ce film.
Oui, justement, voilà, tu as un petit indice là. Mais ouais, voilà, c'était ça Spider-Man en fait, c'est cette question des responsabilités, d'être face à ses choix, ses actes et tout ça. Et en fait, dans Spider-Man Homecoming, c'est tout l'opposé en fait. Spider-Man agit. Bah, en même temps, c'est un gamin, j'allais dire, il agit comme un gamin, mais il n'est jamais vraiment face à ses actes. Et quand il l'est, enfin, à la fin du film, spoiler, alerte, de toute façon, je vous dispense de voir le film, hein, si vous voulez, mais le mec quand même crache un avion, et il est là avec une tape sur le dos de Robert Downey Jr. qui lui dit « Ouais, non, mais en fait, t'as bien joué, mec, t'as sauvé la ville. » 2 minutes avant, il l'engueulait parce que le mec, il faisait péter un bateau alors qu'il n'avait pas été pris au sérieux. Et je me dis qu'il y a déjà un problème dans le développement du personnage, et ça, c'est un peu catastrophique. Pour des gens qui pour, en plus pour la maison mère de Spider-Man qui adapte le personnage, et je trouve ça assez catastrophique, et même pour ce que le film veut raconter, quoi, je trouvais ça un peu naze. Ensuite, il n'y a pas grand chose à rajouter vraiment sur le film. Je trouve que c'est une déception, mais il n'est pas non plus détestable dans le sens où c'est un film qui se laisse regarder. Il a cette mention là en fait, et pour moi un film Spider-Man, ça devrait être plus que ça. Enfin bon, il y a plus de mauvais films Spider-Man que de bons, il n'y en a que deux d'ailleurs des bons films Spider-Man. Mais je trouve ça dommage, j'aimerais voir quelque chose d'autre, j'espérais mieux pour ce personnage-là, j'imagine que c'est foutu maintenant, avant un Eternal Reboot ou alors une chute de Disney qui serait à proprement parler improbable. Et voilà, c'est bien dommage. Je reviens rapidement sur cette artificialité. En fait, ce que je voulais évoquer par là, c'est tous ces gadgets en fait, qui sont rajoutés, notamment sur le personnage qui n'apporte rien en fait. Un personnage n'a pas besoin d'avoir tous ces artifices visuels en fait pour plaire au public. C'est pas ça en fait qui fait ramener des gens dans un cinéma, quoi. Ça ne devrait jamais être ça, c'est pas des artifices ridicules. Et donc vient le troisième film, Thor Ragnarok, sorti en octobre dernier, si je ne me trompe pas toujours. Et là c'est pareil en fait, la franchise Thor, de toute façon, elle était catastrophique depuis sa sortie en 2011. Et là, le Marvel Studios s'est dit aussi, bah écoutez, nos films n'ont pas réussi à plaire, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va partir sur un délire un peu what the fuck, on s'en fout, on va partir avec des couleurs, dans une ambiance rétro, années 80 et tout ça. Et t'es là en train de te dire, quand t'es amateur de comics, tu te dis, mais merde, en fait, enfin, il n'y a pas d'histoire à raconter sur ces personnages-là, vous avez vos bases, les gars, et vous permettez de faire des trucs aussi ridicules, enfin... un moment, faire du déjanté pour faire du déjanté, ça suffit plus, quoi. Et le public peut vraiment commencer à se sentir trahi. Moi, je me sens trahi personnellement, et j'ai l'impression vraiment que les mecs me prennent pour un con, quoi. Parce que on nous vend des produits stupides, bêtes et méchants, tout ça, alors que ça pourrait être bien plus poussé, bien plus intelligent et bien plus travaillé. Et tout ça pour créer un vulgaire divertissement qui va cartonner, parce que ça cartonne du moment que c'est inoffensif, du moment que c'est limite abrutissant. Et je trouve ça bien dommage. Du coup, Thor Ragnarok, j'ai même pas grand chose de plus à en dire. Il y a vraiment rien. Il y a rien à en tirer de spécial. Je sais que ça peut faire débat ici. Je sais pas si vous l'avez vu ici.
Ah non, du tout.
Si, moi je l'ai vu.
Toi, tu l'as vu?
Oui.
Tu me rejoins un peu sur ce que je dis?
Je me suis endormi.
Ah d'accord. Ok.
Non,
merci.
Sérieusement, je te rejoins complètement sur ce que tu dis. Et alors après, je suis pas un grand amateur de films de super-héros, mais c'est vrai que. Enfin, c'est ce genre de film qui justement dénature peut-être le peu qu'il y avait de plaisant dans les Marvel, voilà. Enfin dans les réadaptations Marvel. Enfin du coup voilà, donc je t'approuve pas mal.
Mm. Ouais, moi aussi je l'ai vu et je pense exactement la même chose. À mon sens, ils ont essayé de reprendre la recette Gardiens de la Galaxie.
Ouais, carrément. Ouais.
Et ils ont totalement foiré.
Bah parce que je pense pas que Thor à la base c'était un personnage fait pour ça.
Non,
bah déjà c'est un putain de dieu viking, enfin dieu nordique. Du coup voilà, c'est
au mieux du massage,
c'est ça en fait. Hugo, tu voulais en rajouter, tu voulais dire quelque chose?
Ah non, mais en fait c'est que le charme des Gardiens de la Galaxie, ça passe avant tout par la diversité des personnages et l'effet peut-être trop mascotte de bébé Groot ou de Rocket, tout ça.
Tu reviens sur les Gardiens de la Galaxie,
ouais,
ou plutôt,
en
critique de ce que Oran a dit sur Thor Ragnarok.
Pas vu Ragnarok justement, d'accord, okay. Mais j'ai vu les deux premiers Thor et c'était tellement.
Oui, toute la franchise
terrible.
Est un peu.
Ouais,
chier,
non, c'est catastrophique ce qui a été fait sur Thor. En plus, je trouve ça con parce que avec toutes les. Je veux dire, il y a. À la limite, on demande même pas quelque chose de novateur, tu vois, mais il y a eu Le Seigneur des Anneaux qui est sorti, t'as la série Vikings, voilà, qui est sortie, t'as même Game of Thrones, tu vois, et les mecs pourraient s'inspirer de ça, rien que pour les costumes, et les costumes ils font toc, les décors font toc, les effets spéciaux font toc, fait tout, même les acteurs, enfin Chris Hemsworth, il est là, c'est pas...
Puis il y a plus aucun enjeu.
Voilà, et y a... merci. Non mais en plus il y a plus aucun enjeu, du coup dans Thor Ragnarok, si tu rajoutes les blagues par-dessus tout ça, en fait, tu n'as plus aucun enjeu parce que plus rien ne se prend au sérieux. Et il y a quelque chose qui m'énervait un peu il y a quelques années, et même encore en ce moment, c'est les gens qui disent « Ouais, non, mais ça change les autres Marvel, les films qui se prennent pas au sérieux. » Mais en fait, on commence à dire ça pour chaque Marvel qui sort. En 2016, quand Deadpool est sorti, les mecs sortaient ça aussi, Deadpool, c'est pas comme un autre Marvel. Enfin, je vais revenir vite fait sur Deadpool parce qu'il y en a un deuxième en plus qui sort cette année. Et je vais me faire plaisir un peu en tapant dessus parce que tout le monde a dit que c'était une révolution Deadpool. Je vais pas critiquer le film parce qu'il a un petit budget et tout ça, mais au final c'est un film qui se moque des films de super-héros pour retomber dans les mêmes travers que ces films-là, quoi. En disant putain, mais on les aime bien quand même ces films-là. Il est là en disant ouais, mais on fait pas un film avec un super-héros en collant qui va sauver la demoiselle à la fin, enfin et tout ça. Nous on va insulter, dire des gros mots et tout ça. Ouais, mais mec, en final tu sauves une demoiselle à la fin en battant un méchant avec des codes encore plus grossiers que jamais, quoi. À titre de comparaison, Captain America The Winter Soldier était plus novateur que Deadpool 2, quoi. Deadpool tout court. Mais voilà, ouais. Voilà, j'aime bien tacler un peu Deadpool et tous les gens qui aiment Deadpool. Voilà, excuse-moi, du coup, Hugo, je t'invoque à nouveau pour défendre Gardiens de la Galaxie volume 2.
Ah non, mais moi, ce n'est pas du tout pour le défendre, mais il est beaucoup moins intéressant que le premier, mais. Tu me prends au dépourvu. non, j'avais pas forcément prévu ma critique, mais oui, en fait, si tu veux revenir sur Deadpool, en fait, c'est que le Deadpool, c'était vraiment l'esprit parler, enfin, toujours blague au public, et je pense que voilà, Marvel en a beaucoup souffert au niveau. Enfin, ils ont vu que ça marchait, l'effet comique, comme voilà, tous les comics sur Groot et tout ça dans les Gardiens de la Galaxie. Enfin, ils ont vu que ça marchait, ça plaisait, donc forcément, ils en abusent.
Du coup, ok. Bah, du coup, là, je vais revenir aussi sur DC, rapidement. DC, en 2017, ça a été deux films. Ça a été Wonder Woman et ça a été Justice League. Wonder Woman, je suis désolé, je vais un peu taper dessus aussi. J'ai plus ou moins bien aimé du fait que ce soit un remake de Captain America, qui était le premier, qui est déjà un mauvais film. Bon, il a au moins ça pour lui d'adapter correctement la Première Guerre mondiale, de retransposer correctement la Première Guerre mondiale en en faisant un événement sérieux et dramatique, ce que la Première Guerre mondiale a été. Après, quand on dit que Wonder Woman est une révolution dans le film de super-héros, c'est à peu près pareil, c'est exactement comme Deadpool. C'est un film qui a été fait déjà depuis 7 ans, et ça pose problème, quoi. Ça pose problème, et après on parle aussi de féminisme et tout ça. Pour moi, inverser le rôle entre le héros masculin et le héros féminin, ça ne fait pas un film féministe, en fait. C'est pas ça, un vrai film féministe. Voilà, après, je sais pas, on aura peut-être pas le temps d'en débattre, quoi que ce soit, mais ça, c'est mon avis. Et pour Justice League, ça, c'est peut-être la catastrophe, parce que je me grouille. Il y a eu un drame en fait dans l'histoire de ce film là, c'est que personne ne le voulait après les échecs de Suicide Squad et de BVS, Batman vs Superman pardon, et du coup plus ou moins personne ne voulait Justice League et ou pas dirigé par Zack Snyder et comme ça et fait comme il l'a fait, et du coup le mec a été un peu mis à l'écart au même moment où il a été mis à l'écart, sa fille s'est suicidée, donc c'est dégueulasse, et il a été remplacé par Joss Whedon qui est réal Avengers, et tout en gardant des scènes de son film, et ça a donné un film un peu bâtard, même carrément bâtard, où on retrouve aucune esthétique, il n'y a plus rien qui est apporté si ce n'est que de copier-coller Marvel. Je rappelle que David Ayer, le réal de Suicide Squad, avait clamé à l'avant-première de Suicide Squad fuck Marvel, tout ça pour revenir lécher les bottes ou s'inspirer de Marvel. Je trouve ça un peu naze, et puis même au final ça donne un film qui n'a rien à dire, qui est aussi totalement inoffensif, qui chie littéralement sur des personnages aussi iconiques que Superman et Batman. Et moi je trouve ça dommage parce qu'aujourd'hui on en est là à détester les films de super-héros, à trouver que c'est un sous-genre, même un genre assez dégueulasse, où les gens ont honte de dire oui bah voilà j'aime un film de super-héros, alors que ça pourrait être bien plus que ça. On a vu que c'était possible avec des films comme Watchmen du même Zack Snyder, ou de la trilogie Nolan de la trilogie Batman de Christopher Nolan, ou les Sam Raimi quoi, ou les Spider-Man Sam Raimi. Faudrait juste sortir de cette idée de produit de consommation quoi. Voilà, je laisse la parole à
très bien, merci. Alors, du coup, sur Marvel et sur DC, on a vu un peu ce que tu avais à dire. Maintenant, il y a d'autres super-héros quand même. Hein. Donc là, on va laisser Victor et Hugo nous parler un peu des autres super-héros. Donc je vous en prie, je vous laisse y aller.
Ben, merci bien pour la parole. Et oui, alors moi, je voulais vous parler... Bon, le premier exemple va pas forcément être dans cette catégorie-là, mais déjà, en fait, je voulais vous parler des films, des super-héros... sans super pouvoir, enfin même encore plus, ce qu'on appelle la nouvelle tendance, enfin maintenant qu'il y a du mal à être renouvelé, mais des films sur des geeks qui voudraient être des super héros. Enfin, voyons, on va voir ça comme ça. Donc en fait déjà ça a surpris beaucoup de gens de se dire oh là là un film d'un super héros sans super pouvoir, oh là là c'est révolutionnaire par exemple. Mais beaucoup de super-héros, donc bien sûr, n'ont pas de super-pouvoir. Bien sûr, on peut parler de Batman, mais bon, il a des super-gadgets. Iron Man avec sa super-armure, Black Widow qui a... qui est vraiment super entraîné. Mais en fait, ça part vraiment de cette mode qu'il y a eu aux États-Unis, des gens fans de comics, peut-être trop... vivant dans leur bulle de comics, justement à vouloir avoir un besoin de se vêtir d'un costume et animé par une envie de rendre justice par eux-mêmes quoi. C'est un peu le do it yourself un peu américain, et justement en fait c'est pas si surprenant que ça si on reprend l'histoire un peu des super-héros historiquement, parce que Robin des Bois, 14e siècle, un des tout premiers super-héros on pourrait dire, qui défend la veuve et l'orphelin, qui vole aux riches pour donner aux pauvres. Et après, on pourrait aller encore toute l'influence des romans de cap et d'épée, qu'on appelle du XVIIIe siècle. On peut citer les Trois Mousquetaires, tout ça. Et après, ce qui va évoluer vers un genre... Déjà, les premiers super-héros, donc fin 19e, début 20e siècle, avec on peut citer, enfin, où il y a déjà cette notion de justicier masqué, de justicier qui échappe à la police, qui est vraiment, qui fait son taf en solo. Alors le Mouron Rouge, alors ça c'est une bonne adaptation de la littérature, c'est un livre de la littérature anglo-saxon, de 1905. Alors c'est un super-héros qui sauve les aristocrates des révolutionnaires durant l'époque de la terreur.
Il a bien choisi sa couleur du coup.
Ah là, super. Ouais. Et bien sûr, le principal personnage fictionnel qui a inspiré après Batman et tout ça, c'est Zorro. Et Zorro, voilà, peut-être qu'il a un certain regard par rapport au roi, à la royauté, tout ça, il a un certain respect par rapport à ça, mais il défend quand même la veuve et l'orphelin. Et en fait, c'est pour ça que ça fait plus d'un siècle que les gens ont été qui baignent dans un imaginaire comme ça. Donc bien sûr, c'est un moment, ça a dû inspirer des gens. Et justement, c'est le sujet du premier film qu'on va parler, de Kick-Ass. Bon, voilà, c'était ça mon premier exemple. Kick-Ass n'est pas forcément dans la bonne catégorie. Parce que c'est un film de Marvel Studios. mais qui sort, oui, tout à fait, de Marvel Studios, mais de 2010. Donc c'était quand même pas encore la période où ils ont multiplié les films fois 1000, mais tout de même. Donc c'était vraiment un film qui se veut totalement à part du reste, parce que déjà, c'est quand même l'adaptation d'un comics qui était sorti seulement 6 semaines avant la sortie du film. Donc c'était quelque chose de nouveau, autant pour les fans de comics que pour les fans des films, des adaptations des comics. Mais voilà, et je pense que beaucoup de gens l'ont vu, donc quand même. Enfin voilà, pour faire le synopsis rapidement, c'est un jeune, voilà, on va dire un jeune geek puceau, pour faire dans le grotesque, et qui veut s'improviser super-héros. Mais c'est vraiment, qui veut s'improviser super-héros, qui va finir dès sa première nuit d'intervention, qui va finir par par être envoyé à l'hôpital, qui va ressortir avec des plaques de métal dans son corps, donc il va moins ressortir la douleur, qui va vraiment réussir à faire la justice par lui-même, qui va se faire repérer par après des mafieux et un couple d'autres justiciers, un couple, son père et sa fille, Big Daddy et Hit Girl. Donc voilà, c'est vraiment, donc bien sûr, Kick-Ass de Matthew Vaughn, qui vraiment a réinterprété la comédie de super-héros qui était toujours un peu grotesque, grotesque, burlesque, pour vraiment faire un mix parfait entre... Enfin, non, pas parfait, mais un bon mix entre film de super-héros et une vraie comédie. Mais justement, il est fun, il est fun, efficace. Enfin, il y a des scènes d'action assez efficaces, comme la scène dans l'entrepôt avec Big Daddy. Et en plus, ce qu'il fera ensuite plus tard avec Kingsman, c'était la petite parenthèse, où il va réinterpréter la comédie de film d'espionnage. Sans pour autant nous voler le podium avec OSS 117. Mais ça, c'est une parenthèse, encore une fois. Mais justement, c'est là où, comme Deadpool, où ça se veut un peu à l'écart des films de super-héros, tout ça, la fin tombe pareil. C'est la fin, il y a quelque chose d'assez happy ending. Ça va finir en vrai film de super-héros malgré tout. Mais ça ne se... Après, je ne pense pas qu'il se voulait vraiment à part sur ce point-là. Mais c'est justement pour ça qu'il va faire écho à un autre film qui est sorti la même année, qui est vraiment super. C'est le titre. blague, super blague. Non, c'était même pas prévu, en plus, je suis désolé. C'est mon... donc, super de James Gunn. Donc voilà, on reparle de ce petit James Gunn qui a fait ce film totalement... Merci Coco pour le commentaire. Un film totalement indépendant et qui, pour traiter du même... Enfin, ça va être partir sur un peu le même topo que pour Kick-Ass. Donc là, pas un jeune adolescent, donc plutôt un 30-40-naire qui s'appelle Frank Darbo, donc un gros loser, toute sa vie, toute son enfance, remplie de bizutage, etc. Et les deux plus beaux moments de sa vie sont son mariage et la seule fois où il a pu aider la police pour arrêter un simple petit cambrioleur. Mais on sent déjà que ce mec ne vit que pour son mariage. Et bien sûr, sa femme se taille avec un baron de la drogue. Et forcément, là, il va s'emparer d'une rage et d'une certaine vision mystique de Dieu qui va lui dire « Tu es l'élu et tu dois devenir un super-héros ». Du moins, c'est comme ça qu'il interprète. C'est ça qui est assez drôle, c'est parce que ce mec, déjà, il n'est pas du tout adapté au film de comique. Mais c'est déjà ce qui est vraiment sympa, c'est que, comme je disais, c'était un film indépendant avec un budget de 2,5 millions de dollars. Donc très peu, mais surtout avec un casting de malade. Il y a Ellen Page, Kevin Bacon, Liv Tyler, Arwen du Seigneur des Anneaux, Nathan Fillion, qui est le mec de The Castle, et Michael Rooker, qu'on retrouve bien sûr donc... Comment il s'appelle le mec
dans Yondu dans Les Gardiens de la Galaxie.
Yondu dans Les Gardiens de la Galaxie et bien sûr dans The Walking Dead, qui joue le frère de Daryl. Donc voilà, donc c'est un certain casting pour un film de 2,5 millions. Et par rapport à Kick-Ass avec Marvel qui a 30 millions, Donc juste pour comparer. Et en fait, ce qui est vraiment, mais vraiment, enfin, Kick-Ass, voilà, on le voit à 14, enfin, moi je l'avais vu à sa sortie, voilà, 14-15 ans, voilà, c'est vraiment un film quand même plus adolescent. Mais là, franchement, ça vise quelque chose d'autre. Ça vise, ce n'est pas du tout une comédie de super-héros comme on aurait pu l'appeler. C'est vraiment un film qui expérimente beaucoup de choses. Enfin, c'est une expérimentation dans le film du super-héros parce qu'il apporte énormément d'idées plastiques et comme les onomatopées. Enfin, ça, ça a encore été déjà vu pas mal, mais tous les onomatopées en grand, des plein de gags aussi. Sur le fait que le mec est quand même un gros loser. Et donc ça encore, ça se retrouve un peu dans Kick-Ass, mais là, c'est mieux exploité. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et en fait, c'est souvent dans... Bon, là, c'est un peu... je repasse à autre chose, mais c'est un peu dans... Ce genre de film, c'est assez mystérieux, qui commence avec toujours l'idée de vouloir faire justice soi-même, qui commence avec... qui commence avec une arme blanche, enfin voilà, une petite clé à molette ou des petits bâtons dans Kick-Ass, et qu'au fini, au final, ça finit avec du gros matériel, une grosse artillerie de guerre. Donc par exemple, c'est ça qui est vraiment sympa dans Super, c'est qu'au final, le mec, on se rend compte que c'est totalement détraqué, que, enfin, on peut l'interpréter comme ça, que le mec, toutes ses visions, c'est qu'au final, c'est vraiment un détraqué dans sa tête, et qui finalement est limite plus un danger public que même des mafieux qui font ça secrètement. Donc c'est pour ça qu'on peut il y a plusieurs moyens d'interpréter ça. Et voilà, mais en tout cas, donc voilà, juste pour vous donner envie de voir Super, c'est vraiment quelque chose qui traite ça plus intelligemment, qui toujours avec ses caméras portées donne un aspect très journalistique pour un sujet qui est quand même qui était un peu dans les, donc voilà, 2010, dans les actualités de ces vrais super-héros, enfin de ces vrais faux super-héros qui parcourent les villes pour faire justice eux-mêmes. Donc voilà, il y a toujours des questionnements par rapport aux armes, tout ça qu'on pourrait se dire, parce qu'au final ça finit vraiment en gros bain de sang à la fin. Donc très bon film, et voilà, c'était... pour donner la parole à Victor, pour enchaîner.
Eh ben, je suis très content que tu finisses là-dessus, parce que justement, c'était, je voulais justement aussi un peu très très vite fait aussi parler un peu de Super, parce que je trouve que c'est un film d'autant plus exceptionnel dans la comparaison à Kick-Ass, parce que c'est vraiment deux manières de traiter ce même phénomène bien réel, des gens qui s'habillent en super-héros et sortent pour sauver le monde. Enfin, sortent de chez eux pour sauver le monde. Et en fait, la particularité de Super, c'était que moi, je trouve qu'il y a deux particularités, dont une que tu as un peu développée, c'est-à-dire que le film Super explore vraiment cette partie très pathologique du super-héros, où en fait tu as parlé du type qui était que tu as très justement qualifié de, enfin, qui devient un vrai danger public à la fin, quoi. Et il y a aussi la nana aussi, enfin la nana jouée par Ellen Page,
bien sûr, certaines scènes justement, en fait, on se dit elle joue faux, mais c'est vraiment son personnage qui est hystérique à ce point là qui est une dingue, et qui, en fait, ce jeu, ça passe des moments chauds, intenses, on se dit c'est jovial, c'est comique, des redescentes, des froideurs, et pardon de te couper.
Ouais, non, mais c'est pas de si, non, mais d'autant plus que, enfin, y a certaines, quand même certaines scènes du film qui suggèrent assez explicitement qu'il y a quelque chose de sexuel dans la manière de mettre un masque et d'aller jouer quelqu'un qu'on n'est pas, enfin, dans cette espèce de jeu de rôle au super-héros, quoi. Et aussi dans la particularité du film Super, c'est son traitement de la violence. Qui est
extrêmement violent.
Ouais, ouais, c'est extrêmement violent, mais surtout c'est extrêmement glauque, parce que c'est bien justement de le comparer à Kick-Ass, parce que dans Kick-Ass la violence est beaucoup plus
c'est comme avec Hit Girl, c'est beaucoup plus, c'est comme l'effet Deadpool, voilà, ça, des jambes qui sont coupées, voilà, on s'en fiche, c'est rigolo.
Ouais, mais non, mais c'est pas forcément quelque chose de condamnable, tu vois, enfin, moi aussi je me suis binonné devant les films de Tarantino où la violence, exact, est elle-même très jouissive. Mais c'est justement aussi, enfin, je vous rappelle que pour le Kick-Ass 2, il y a Jim Carrey qui, après le tournage, s'était évertué à faire une mauvaise publicité à Kick-Ass 2 en disant aux gens n'allez pas voir ce film, parce que lui avait été dégoûté de la manière dont était traitée la violence dans Kick-Ass 2. C'est son avis, enfin je suis pas forcément du sien, mais ça montre quand même que c'est un traitement de la violence qui est particulier, et dans Super c'était hyper singulier aussi, puisque à la fin ça devient vraiment super glauque, quoi. Mais bon, du coup, c'était tes petits films à toi. Enfin, je suis très content que t'en aies parlé, parce que moi j'aime vraiment ces films là mais du coup c'est super cool que t'aies pris comme thématique les super-héros sans pouvoir, parce que moi je vais parler justement de super-pouvoir sans super-héros pour mon premier film, puisque aujourd'hui j'avais envie de vous parler de Chronicle, un film de Josh Trank, je sais pas si on disait comme ça, mais voilà, qui en fait met en scène un trio d'adolescents qui en fait se retrouvent à avoir des super-pouvoirs. Et ce qui est très intéressant dans le traitement de ces personnages, c'est qu'à aucun moment dans le film, il ne sera question de super-héros. Le mot ne sera pas prononcé, l'intention ne sera pas émise. À aucun moment, il n'est question d'utiliser ces super-pouvoirs pour faire le bien ou faire le mal. Et je trouve ça super intéressant. D'ailleurs aussi, à aucun moment dans le film, il ne se demande d'où est-ce que ça vient. Si vous avez vu le film, vous vous rappelez qu'ils entrent dans une espèce de caverne, ils touchent un cristal.
C'est une météorite, un truc comme ça, non ?
Ouais, on ne sait pas trop si c'est une météorite, parce qu'ils trouvent déjà le trou dans le sol après une rave. Enfin, on ne se demande même pas s'ils sont juste pas drogués et en fait, ils se réveillent le matin après un bad trip et ils se retrouvent avec des super pouvoirs, quoi. Mais en gros, voilà, à aucun moment dans le film, on va essayer d'expliquer pourquoi ces gens ont des super pouvoirs. Et ouais, on zappe totalement l'explication, mais d'ailleurs, c'est aussi une manière de pointer que dans les films de super-héros, aucune explication n'est vraiment une explication. Je veux dire, c'est pas parce que Spider-Man se fait... que le mec se fait mordre par une araignée, que voilà, ça y est... il peut sécréter, tu vois, c'est pas...
Ça s'est pas passé comme toi, pour toi,
Victor ? Ah non, moi, c'est pas passé comme ça, mais voilà, c'est quand même une fausse explication, je veux dire, on peut faire le test, hein, on peut foutre des gens dans des bidons de produits radioactifs, je suis pas sûr qu'ils ressortiront comme le Joker, tu vois.
Ils ont fait ça dans les Looney Tunes. Ah. Les Looney Tunes, ils ont fondu.
C'était la parole.
Voilà, les Toons ont fondu. Que ça vous serve de leçon, ne faites pas ça. Et donc, du coup, Chronicle, donc je reviens. Et en fait, qui est une manière beaucoup plus intime et beaucoup plus familière, beaucoup plus commune de traiter le super pouvoir. Parce qu'en fait, comme les jeunes normaux, eh ben en fait, ils vont. Juste faire des conneries, quoi. Ils vont juste s'amuser avec leur nouveau super pouvoir. Et ça, c'est à la hauteur de la forme qu'ils choisissent, puisque le film est sous forme de found footage, qui est lui-même une forme de film très. Auquel on n'est pas habitué pour un film avec des super pouvoirs. Parce que dès qu'on entend super pouvoir, ça nous fait penser tout de suite à des grands effets spéciaux. Et là, c'est une forme beaucoup plus proche des personnages. Et le deuxième film dont je voulais vous parler, c'est Krish, qui est un film pas très connu. Mais qui mérite d'être vu, puisque c'est un film de super-héros Bollywood fait par Rakesh Roshan, je ne sais pas si non plus si on dit ça comme ça, mais voilà, dont j'avais envie personnellement de parler, parce que c'est un film qui a vraiment bercé mon enfance. Et c'est, juste pour vous parler un peu du film, c'est le deuxième film d'une saga de trois films il va falloir du courage pour les regarder, parce qu'ils durent tous entre 2h40 et 3h. Comme tous les films Bollywood, si vous êtes familier.
Avec beaucoup de musique, non ?
Avec beaucoup de musique, des chansons et tout ce qu'il faut. Et des très mauvais effets spéciaux, je vous le dis tout de suite, mais c'est ce qui fait aussi la magie du truc. Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire, vous découvrirez vous-même. Mais voilà, je voulais quand même en parler parce que c'est peu connu. Et pourtant, vous pouvez trouver les deux derniers opus de cette saga, Krish et The Defender, sur Netflix, si vous voulez les regarder, si vous avez le courage de vous taper les 3h et 2h52 qui durent.
Pourquoi pas, tiens ?
C'est vrai qu'aussi à Bollywood, on a beaucoup de films de super-héros. On va faire place maintenant à Oran, avec un sujet beaucoup plus sérieux, si on peut dire. On va passer sur une science politique du super-héros.
Bah ouais, parce qu'en fait, on peut se rendre compte que les films de super-héros, ils sont vraiment consommés genre, en masse. Et que du coup, on peut se rendre compte que l'explosion de la figure super-héroïque en elle-même, elle a lieu toujours à des moments très particuliers de l'histoire. Genre l'âge d'or des comics, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. L'âge d'argent, c'était au beau milieu de la guerre froide. Et surtout, l'explosion du Marvel Cinematic Universe, c'était juste après le 9 septembre. Et c'est aussi Marvel qui a permis de faire le deuil, finalement, du 11 septembre, pas du 9. Mon Dieu, c'est moche. Et Hugo qui se marre depuis tout à l'heure. Vas-y, il est cool. Parce que du coup, pendant jusqu'à la dernière battle finale dans Avengers qui détruit littéralement New York, tous les films qui parlaient de la fin du monde se passaient justement pas à New York, mais bien aux États-Unis, faut pas déconner quand même. Du coup, la figure du super-héros, en fait, elle rentre, en tout cas aux États-Unis, dans la construction de la nation et d'une idée de l'identité américaine. En fait, ils permettent de construire une sorte de sentiment d'appartenance à la nation en inscrivant tous les éléments de la culture populaire américaine dans des mythes, en fait. Et du coup, ça permet de construire une identité américaine qui est idéalisée et mythifiée, une sorte d'identité fictionnelle que l'historien Benedict Anderson, qui est une sacrée pointure dans le domaine, appelle des « imagined communities ». Donc en fait, c'est tous les mythes et la mémoire partagée par un groupe de personnes qui permettent de faire en fait la nation, qui permettent de former une nation. Donc finalement, les films de super-héros, ils servent un ensemble de valeurs qui sont un ensemble de valeurs à défendre. Et les vilains, ils permettent finalement de s'unir face à l'adversité. Et du coup, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, Clément, c'est que les films de super-héros, ils sont en quelque sorte un peu un reflet de la société. Et c'est particulièrement le cas, du coup, par exemple, dans Logan, où du coup, James Mangold, il parle du vieillissement des super-héros, qui est un sujet carrément nouveau dans le genre. Parce que d'habitude, on parle pas du vieillissement des super-héros, ils sont invincibles, ils meurent jamais, parce que comme ça, on peut les exploiter quand on veut, tout le temps. Et ça permet de faire plein de nouvelles lignes temporelles, où on fait ce qu'on veut avec. Du coup, James Mangold, pour la première fois, il parle du vieillissement des super-héros, avec le professeur Xavier qui est complètement taré, Logan qui est en train de crever, et un albinos. Du coup, ça donne une vision des super-héros qui est quand même assez... triste.
Un albinos, j'ai bien aimé la chute, tu vois.
Du coup, voilà. Et en plus, en dehors de ça, il parle, enfin, il fait quand même un petit peu illusion aux dernières politiques d'immigration américaine, parce qu'il s'agit quand même des Mexicains à passer la frontière canadienne. Donc, on est quand même un petit peu dans la critique de la société et le reflet, du coup, de son évolution. Donc, du coup, on peut véritablement voir que les films de super-héros, ils servent finalement à construire une sorte d'identité nationale. Sauf qu'aujourd'hui, c'est même plus une identité nationale, donc on pourrait parler, c'est même une identité internationale. Parce qu'on est français, on a tous été un peu biberonnés aux films Marvel et DC. Du coup, grâce à la mondialisation, on peut même parler d'une construction, limite, d'une identité internationale grâce aux films de super-héros, forcément, qui seraient chapeautés par la culture populaire américaine. Il n'y a qu'à voir la place qu'occupent les blockbusters dans la part du cinéma français, c'est 50% des entrées d'après le CNC. Mais par exemple, adopter les héros américains, c'était l'objet de l'article de Fabrice Montebello, quand il parlait de Joseph Staline et Humphrey Bogart, l'hommage des ouvriers, essai sur la construction sociale de la figure du héros en milieu ouvrier en 1993. En fait, il se posait la question de savoir comment est-ce que les ouvriers qui votaient le parti communiste, donc du coup dans les années juste après la guerre, en venaient à placer au même niveau Staline, et Humphrey Bogart, qui était du coup un acteur américain, ça n'a aucun sens. Parce qu'effectivement, juste après la guerre, il y a eu un afflux majeur de films américains sur le territoire français à cause des accords Bloom-Burns, qui donc permettaient d'effacer une partie de la dette française en échange d'une meilleure visibilité des films américains qui ont été totalement censurés pendant la guerre. Et du coup, c'était la fin du régime des quotas qu'on avait imposé en 1936. Donc forcément, il y a eu beaucoup plus de films américains sur le territoire. Et les communistes, ils n'ont pas trop aimé, quoi, parce que du coup, ils voyaient ça comme un moyen de diffuser l'American way of life, l'impérialisme américain et tout ça. Donc du coup, c'est un peu marrant de voir des gens qui se revendiquaient du parti communiste de kiffer à la fois Staline et à la fois le cinéma américain. Et d'ailleurs, l'industrie du cinéma française l'a bien compris, parce qu'en retour, elle a créé le CNC en 1946. Donc du coup, 6 mois après, limite, les accords Bloom-Burns. Mais le phénomène, il ne s'arrête pas là. C'est aussi super intéressant de l'étudier en Inde, où c'est vraiment l'inverse. J'ai l'impression que les États-Unis, ils ne sont pas arrivés là-bas. Parce que là-bas, finalement, à l'inverse, on consomme encore à 90% un cinéma national. Mais par contre, les héros sont véritablement bien présents dans la culture indienne, puisque là-bas, le cinéma, c'est même plus qu'un art ou une industrie, c'est carrément une culture ou un art de vivre qui fait partie intégrante de la vie de nombreux Indiens. Et Shah Rukh Khan, qui est vraiment un mythe, l'acteur mythique là-bas, il dit que le cinéma, par exemple, c'est comme se brosser les dents pour les Indiens. Donc du coup, ils sont un peu à l'inverse de la tendance mondiale, mais les héros, ils ont quand même une place carrément culturellement importante dans la mémoire commune aux Indiens. Donc si on parle uniquement de films de super-héros, on remarque vite qu'il s'agit pas mal, de plus en plus, d'un mélange entre les codes donc bollywoodiens, comme disait Victor, avec de la danse, de la musique et tout ça. Et maintenant, un peu plus un petit input hollywoodien. Donc si dans les années 80 et 90, c'était bien des nanars cheap qui s'assumaient qu'à moitié avec des déguisements qu'on aurait pu trouver au marché, aujourd'hui, il y a Hollywood qui commence un peu à s'incruster dans le game, avec Rawan, parce que c'était une boîte de prod américaine qui s'est occupée des effets spéciaux, et Hans Zimmer qui s'est occupé de la musique. Donc forcément, le film a eu une... une diffusion qui était bien plus importante que Kirsch, par exemple. Kirsch. Du coup, voilà. Mais le principal, c'est que les Indiens... Pour les Indiens, le héros, en fait, il se passe carrément des super-pouvoirs et des super-héros. Le héros, c'est une personne normale. La question des origines, ils s'en tamponnent. C'est pas du tout la même chose que pour Spider-Man. Et surtout... Spider-Man. Et surtout, le héros, en fait, il est juste incroyablement fort quand il en a besoin. Ce qui amène les Indiens, mais juste à vénérer ces acteurs héros qui font des cérémonies qui sont quasiment religieuses, mais sur l'affiche des films. Et le public, il part en folie, mais quand le film, il est en salle. Attention aux oreilles, ça c'était bien le public indien dans la salle de cinéma quand le générique y commence. Donc clairement, si on fout Victor là-bas, il meurt. Donc voilà, il y a vraiment une vénération de ces acteurs héros. On parle de cris, de confettis, ça vraiment les gens, on voit sur les vidéos, ils se lèvent pour aller faire un câlin à l'écran. C'est que les noms du générique. C'est le début du film.
Ah ouais, à ce point-là.
Ah ouais, ouais, non, les gens se lèvent.
Mais genre les acteurs sont dans la salle ou
non, les acteurs sont pas dans la salle.
Ah ouais, d'accord, c'est la séance de tous les jours.
C'est la séance de tous les jours. Mais alors là, du coup, ça c'était pour
du spectacle vivant.
Ah ouais, mais ça c'est du coup c'était la première diffusion de Kabali, qui est un film qui est sorti en 2016, et les gens ils deviennent fous hein, dans la rue, c'est un truc de taré. Et voilà, du coup, c'est un phénomène de consommation qui est totalement différent d'une autre où on a l'habitude de se taire quand même quand on est au cinéma. Et cette vénération de l'acteur structure en Inde, mais enfin la société même, ces acteurs, ils disposent d'une telle aura qu'il y en a pas mal d'entre eux qui se reconvertissent dans la politique. Donc ça se passe aussi aux États-Unis avec Schwarzy, tout ça, tout ça. Mais en Inde, la liste, elle est carrément trois fois plus importante. Et du coup, si aujourd'hui, les films de super-héros, ils occupent une place quasiment prépondérante, c'est le résultat d'un cercle vertueux de la consommation qui fait rentrer les films de super-héros dans les mythes populaires partagés par l'ensemble de la nation ou même de la population, que ces films soient bons ou mauvais. Du coup, ça laisse une place centrale, ça prend une place centrale en termes de réception dans la société, qui peut aussi s'analyser en termes d'analyse pragmatique du cinéma, où le cinéma peut cette fois-ci faire contexte.
On va quand même passer avec Lucas, qui va nous faire des héros du quotidien, il me semble aussi. Donc je te laisse faire, parce que je ne sais pas exactement de quoi tu vas nous parler aujourd'hui.
Eh bien, moi non plus, je ne savais pas exactement de quoi j'allais vous parler aujourd'hui. C'est ce pourquoi je n'avais pas d'idée hier et que je me suis couché à 4h du matin. Outre cela, voilà, moi j'aimerais vous parler de, en cette belle période de janvier où on est tous un peu déprimés, moi j'aimerais vous parler de ces héros du quotidien. Et ces héros du quotidien, c'est qui? C'est nous. Car nous affrontons une chose ensemble et ça s'appelle la vie. Moi, la vie, elle s'est résumée il y a une semaine lorsque mon petit copain a été sur Tinder et que je me suis retrouvé célibataire. Alors, face à cette tristesse profonde qui m'a rempli, j'ai voulu regarder un film plutôt joyeux qui s'appelle Le Nouveau Monde de Terrence Malick de 2005, un film de 2h52 qui est en fait une réadaptation de Pocahontas. Et voilà, donc c'est une romance un peu aux airs lubriques avec une coupe Pocahontas légèrement moustachue et un torride Colin Farrell. Bref, c'est un chef-d'œuvre, mais c'était sans compter que le film durait 3 heures et que vous êtes déjà au bord de la léthargie au bout de 52 minutes. Donc après une heure et demie de film, vous commencez à déprimer et vouloir définitivement faire comme Pocahontas, parler aux arbres et aux ruisseaux, ce que j'ai fait avec ma bouteille de blanc après m'être fait larguer. Donc du coup, dans l'heure qui suivit, étant donné que j'étais célibataire et que voilà, j'engageais cette conversation avec mon ficus, le mouvement pris sur les chèvres d'œuvre et mon état proche de Depardieu bourré dans son vignoble et Muriel Robin dans son énième dépression, je décidais de regarder un film qui vous prend au corps. Et ben, il s'agit bien entendu de Mélancolia de Lars von Trier. Donc là, je ne terminerai pas d'expliquer ma nuit. Ça a été très long, très douloureux et bref, je suis sous trithérapie depuis 2 semaines, je vous expliquerai pas ce que j'ai fait. Voilà, c'était ma semaine, c'était ma vie. Et aussi, j'ai appris, bien entendu, que je n'irai pas en master. Bon courage. Merci.
Merci, Lucas. On te souhaite bien du courage, du coup, mine de rien. C'était très triste. On a beaucoup aimé ta vie. Du coup, on va passer sur les chronocritiques. Hugo, il me semble que tu avais préparé quelque chose. Juste 2 secondes. Les chronocritiques, en quelques mots, c'est 90 secondes, donc 1 minute 30 de critique d'un film. Hugo, vas-y, on t'écoute.
Oula, alors là ça va être chaud, mais voilà, je suis allé voir Wonder Wheel parce que je l'attendais beaucoup, parce que j'avais lu la critique sur Positif et il m'attendait beaucoup de le voir. Et je n'ai pas été déçu, bon, sans parler de Woody Allen, on sépare personnage et réalisateur. Mais voilà, non, c'était un super film dans le sens où déjà le décor est magnifique. Ça se passe dans les années 50 à Coney Island, donc le parc d'attractions. Proche de New York, donc c'est vraiment avec tout le décor de plage et tout, un casting assez impressionnant parce que Justin Timberlake là encore fait preuve qu'il est quand même bon acteur avec sa sacrée belle gueule et voilà en fait encore un drame comme c'est si bien les faire Woody Allen et voilà, c'est très plaisant à voir et ça en fout toutes les couleurs et voilà.
Super. Du coup, on avait une seconde chronocritique. Il me semble que c'était toi, Oran, qui
avait
préféré ça. Et bah, on t'écoute. Bah, allez,
moi, la semaine dernière, je suis allée voir O Lucie de Hirayanagi Atsuko avec Josh Hartnett et Terajima Shinobu. Du coup, c'est le premier film de la réalisatrice. Et en gros, ça parle d'une Kuandra Kinka qui se fait chier dans sa vie au Japon. Parce que donc, ça n'a pas l'air très très funky de travailler dans une entreprise japonaise. Et bah là, c'est pas le cas non plus. Et à un moment, elle se retrouve à prendre des cours d'anglais que sa nièce lui a refilé. Et en fait, elle tombe amoureuse du professeur. Faut dire que les cours d'anglais, ils sont quand même un peu what the fuck. Sauf que le mec, il se barre avec la nièce en question. Et du coup, elle lui court après en Californie. Et ça devient mais complètement what the fuck, ce film, entre règlement de compte fraternel et sexe et problèmes familiaux et tout ça. C'est un joli bordel. C'est quand même plutôt bien foutu. On passe un bon moment. Le film est assez court. Alors des fois... quand ils sont aux États-Unis, il y a des petits problèmes de rythme quand même. C'est bon, voilà. Et quand ils reviennent au Japon à la fin, c'est aussi. Des fois, elle se perd un peu, mais dans l'ensemble, c'est bien foutu. Ça traite bien des sujets qui sont quand même assez importants au Japon, genre la solitude et le suicide, qui sont quand même des sujets qui reviennent assez régulièrement dans le film. Et surtout, ça permet de libérer un peu une société japonaise qui est complètement névrosée, ce qui peut aussi passer pour un stéréotype un peu facile de la vie japonaise. Donc voilà, c'est un film en triptyque qui doit parfois un peu trouver son rythme, mais qu'on prend vraiment plaisir à suivre et à découvrir en même temps un peu que ses personnages, parce qu'on peut jamais deviner la semaine suivante en fait. Ça, c'est vraiment un pari réussi, on sait pas du tout où on va.
Super, merci. Donc deux beaux films. Sinon, aujourd'hui, on peut vous donner aussi une petite actualité cinématographique. Sur Lyon, vous avez le festival Les Inattendus qui passe. Donc un beau festival, je vous recommande d'aller en profiter. Si vous avez quelque chose à dire dessus. Non, très bien, vous pouvez y aller.
Non, mais si, c'est un festival qui est super intéressant dans le sens où ce qu'on va y voir, vous le verrez nulle part ailleurs. Quoi. C'est vraiment de la toute petite production et aussi très expérimentale dans n'importe quel cadre et dispositif qui soit. Donc allez-y, je crois que l'intégralité du festival se passe à la MJC Mon Plaisir.
Oui, il me semble que c'est ça. Et surtout, allez-y vite parce que ça se termine samedi. Donc voilà. Vous avez aussi un petit concours de scénario de 15 pages hein, qui a été lancé par Boost Your Film, la plateforme. Donc n'hésitez pas à aller voir sur leur page Facebook, tout est marqué dessus. Donc voilà, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Essayez et envoyez-nous les liens qu'on parle de vos films à un de ces quatre, à la limite. Et maintenant, je pense qu'on a fini. On peut se dire tous au revoir et puis on se retrouve la semaine prochaine.
Bon, j'espère
bien.
Bonne
journée à tous.
Bah, et restez positif.
Restez positif, oui.
Ciao.
Et allez, ciao.
Je sais que nous reverrons un jour ou l'autre. Salut, mon pote.